Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères.
Radio U, textuel, lire pour vivre mille vies.
J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses.
Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront.
Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la
J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un.
Au chapeau de feutre.
Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence.
Accoudée au bastingage.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, lorsqu'une grosse tempête se déchaîne au-dessus de ma tête, je ne pense pas au réchauffement climatique. Je ne me dis pas que c'est la fin du monde, que l'extinction de l'espèce humaine est pour bientôt. Je me mets à l'abri et je regarde de tous mes yeux, j'écoute de toutes mes oreilles, je ressens de toute ma peau la puissance des éléments qui se déchaînent. J'aime bien ça, entendre le vent hurler, mugir, pousser les portes, tenter de se frayer un chemin, écouter la pluie frapper, cogner, dévaler, la grêle ébranler le toit, la charpente craquer, le tonnerre gronder, regarder les arbres ployer jusqu'à se coucher et revenir un instant debout, je suis bien à l'abri. Il m'arrive de me figurer sur un bateau en pleine mer et je me fais peur. Et j'aime bien me faire peur pour savourer le moment présent. Mais je ne pense pas que ceci est la conséquence de notre mode de vie destructeur. Je n'y pense pas. Je sais que je vais mourir et je n'y pense pas souvent non plus. Je vis avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, le cataclysme est embrayé, mais je n'y pense pas. Et je me dis que si j'étais au cœur de la tempête, je n'y penserais pas plus. J'aurais trop à faire pour sauver ma petite peau, j'enchaînerais les actions sans avoir peur. Et là, je me demande, est-ce qu'un jour, la peur de mourir sera la plus forte ? En attendant, j'ai découvert un roman très fort qui parle de la Terre, des mouvements des plaques tectoniques, de couches sédimentaires, de puissance, de tempêtes cataclysmiques dans le cœur d'un homme et d'une femme. Je vais vous lire un extrait de Doggerland d'Elisabeth Philol. On la prenait de haut jusque-là. Elle ne faisait pas rêver. Elle n'était pas la mer du Nord, cette poule aux œufs d'or qu'elle est devenue depuis, une manne financière tombée du ciel qui justifie qu'on fasse abstraction du reste, de sa mauvaise réputation, vite rattrapée à l'épreuve des faits, le froid, la pluie, les coups de vent à répétition. Et même si la manne devait un jour se tarir, son image a changé. À son tour, comme ses maîtres avant lui, Marc Berthelot tente de communiquer aux jeunes qu'il côtoie la passion de la prospection, des méthodes d'exploration et d'exploitation toujours plus pointues. Il n'y a rien de plus humain que cette passion-là. À la croisée de toutes les compétences de notre cerveau, analytique, déductive, prédictive, jusqu'à l'intuition qui n'est pas pour rien dans bon nombre de découvertes, qui n'est que l'autre nom d'une impossible synthèse des connaissances à faire de manière consciente et qui émerge alors sous une forme ramassée, fulgurante, dans un télescopage qui élude les étapes du raisonnement pour ne garder que l'essentiel, la conclusion définitive qui s'impose d'abord à l'état brut, sans la rigueur attendue et devra ensuite être validée par l'expérience. Marc Berthelot a confiance dans son intuition. elle l'a guidé dans son travail d'ingénieur. Elle le guide aujourd'hui dans ses nouvelles fonctions chaque fois qu'il doit s'extraire de la routine et prendre du recul. Or, ce qu'il sent, ce qu'il pressent, c'est que la pression monte en mer du Nord, que des tensions en sous-sol sont à l'œuvre, que de vieilles blessures, enfouies sous des millions d'années de sédiments et mal cicatrisées, sont en train d'être rouvertes. Dans le travail de sous-traitance pour les compagnies pétrolières ou l'éolien offshore, au gré des missions de Margeos à travers la mer du Nord, il entend ce qui ne sera pas restitué dans les rapports, une rumeur, un bruit sous-jacent au silence officiel sur la sismicité de la zone. Marc Berthelot remonte à la hâte le trottoir d'une rue à sens unique, bordée d'immeubles anciens. Le jour n'est pas encore levé. Les Danois qui entament une nouvelle journée n'ont pas l'air plus préoccupés que lui. Aucun de ceux qui enfourchent leur bicyclette ne semble se projeter dans l'avenir. La bande étroite de ciel noir entre les deux alignements d'immeubles ne fournit aucune indication sur ce qui les attend. Seule cette pluie fine leur donne matière à extrapoler, quelque chose à imaginer d'un plafond nuageux qui glisserait vers l'est, poussé par un vent établi, ce qui n'a rien d'inhabituel pour la saison. Marc Berthelot marche vite, avec en point de mire l'immeuble en briques et ses frises art déco. Il se sent plein de ressources, en forme, même si sa nuit a été agitée. Une force l'anime qui lui vaut de regarder avec bienveillance la puissance qui va se déchaîner dans quelques heures. Il a quitté l'hôtel le ventre vide à l'heure des roll-mops du buffet scandinave, enroulé autour d'un manque plus puissant que la faim, qui le porte, lui fait presser le pas, son sac de voyage à l'épaule, la sacoche de l'ordinateur à la main, presque dans un état d'apesanteur. Quelque chose agit en lui et accélère ses pensées, qui, dans l'ignorance où il se trouve des causes et des mécanismes chaque fois que la situation se reproduit, n'en constitue pas moins une dynamique contre laquelle il ne lutte pas. Jamais il n'a eu l'idée de le faire. Une force motrice qui s'auto-alimente sans qu'il soit nécessaire de dormir ou manger, qui supplée à la perte d'élan vital tel que l'expriment les besoins élémentaires, par quelque chose de plus puissant encore, dont il mesure, à défaut de pouvoir mettre des mots dessus et en identifier l'origine, dont il perçoit chaque fois les effets, les retombées positives. Au moins dans un premier temps. Un vide créateur de tension. Et une tension capable, même après une nuit blanche, de le mettre en mouvement. Une nuit passée à arpenter sa chambre à la recherche d'une solution, d'une explication crédible à ce qui le travaille. Tout a commencé à Groningen, et on y revient. À Groningen, un des plus grands gisements gaziers dans le monde, et le seul d'une telle envergure à être situé en zone urbanisée, la terre tremble. Des fissures apparaissent dans le sol des maisons, les murs se lézardent, des terrains s'affaissent. Après un demi-siècle d'exploitation intensive, à modifier d'abord imperceptiblement puis massivement et durablement les forces et contraintes internes, le sous-sol réagit. Depuis déjà plusieurs années, ces remaniements inquiètent la population et lui font craindre le pire. L'événement de trop, noté 7 ou 8 sur l'échelle de Richter, qui, dans le plus mauvais des scénarios catastrophes, endommagerait les digues du littoral et ajouterait les effets d'une submersion marine à ceux du séisme. Un rapport a été commandé par le gouvernement néerlandais et les conclusions des experts, rendues au début de l'année dernière n'ont fait que renforcer la conviction de Marc Berthelot qu'un processus est en cours, qui déborde les mouvements de rééquilibrage du réservoir de Groningen, que le bassin de la mer du Nord, à force d'être sollicité, percé, vidé, se rebiffe. Alors même que sous ces 3 ou 4 kilomètres de sédiments, il doit faire et composer avec ce qu'il est, avec son histoire géologique tourmentée, des déséquilibres, des perturbations dont témoignent les salariés à bord des plateformes qui sentent régulièrement trembler le sol sous leurs pieds, une réalité qu'enregistrent les appareils de mesure de Margeos, avec une occurrence et une durée des micro-séismes ou séismes de moyenne amplitude, qui ne font que croître le long d'un axe médian, là où est concentrée la majorité des forages et des plateformes en mer du Nord, de part et d'autre de la ligne de démarcation des zones territoriales, quelque chose bouge, se réajuste dans les entrailles de la terre dont l'écho lui parvient. Depuis longtemps, ça lui parle, en sourdine, en sous-main, son inconscient travaille, et le savoir qu'il en avait encore hier matin n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il l'a réalisé, il s'en est rendu compte la nuit dernière, quand l'ensemble brutalement s'est cristallisé. Depuis tout ce temps qu'il emmagasine, qu'il est aux premières loges, que les navires de la société sillonnent le bassin, ses équipes enregistrent des signaux, collectent des données, les retraitent en fonction des missions et du cahier des charges. Entre ce qui entre et ce qui sort, entre les informations recueillies et celles qui sont rendues publiques, l'écart est fait des rebuts, des erreurs, de l'inutile, des signaux parasites émis par le sous-sol et captés par les instruments de mesure, tout un volume de données qui n'alimente pas le chiffre d'affaires et parfois pénalise la rentabilité, quantité de résultats partiels ou intermédiaires que Margeos conserve dans sa base, qui n'intéressent pas grand monde et qui finissent cependant à la longue par dessiner un tableau. À 10 mètres de la Volvo, il presse encore l'allure. Il avance sous la pluie, non pas l'esprit léger mais libéré d'un poids, qui se chiffre en nombre d'heures d'un travail souterrain dont il n'a pu prendre la pleine mesure que quand l'ensemble, brutalement, tel un point chaud de la lithosphère perçant la croûte terrestre, est arrivé à sa conscience. Alors seulement à ce moment-là, il a su qu'il n'était pas inactif, que des forces agissaient en lui, à bas bruit, que sa mémoire enregistrait quantité de détails comme autant de pièces d'un puzzle, dans le seul but d'en recoller les morceaux. Il vient de déposer ses affaires sur la banquette arrière et s'est assis derrière le volant. Il entr'ouvre la fenêtre. L'habitacle sent le tabac froid. Il a fumé autrefois, il ne fume plus. Il plonge machinalement la main dans la poche intérieure de sa parka pour sortir son téléphone, qui n'y est pas. C'est normal, il l'a oublié à Zaventem. La configuration la plus favorable serait qu'il l'ait laissé dans sa voiture, sinon il l'a perdu. En tout cas, il ne l'avait pas sur lui au moment de franchir la porte d'embarquement. Il a dû s'adapter, gérer autrement ses affaires à distance, mais son corps ne s'en est toujours pas remis et garde les mêmes réflexes. Il quitte le quartier de l'hôtel par la Westerallee en direction du campus universitaire. En fin de journée, ces milliers de cyclistes qui sillonnent la ville ne tiendront pas debout, condamnés à faire du surplace face au vent, avant d'être renversés, balayés par une rafale, et leurs bicyclettes embarquées sur plusieurs mètres jusqu'au premier obstacle. Pour l'instant, tout va bien, chacun circule selon ses habitudes. L'université d'Aarhus est située en périphérie du centre, en remontant vers le nord. En homme du Nord-Pas-de-Calais, Marc Berthelot aime la brique. Sur le campus, la brique est jaune, elle peut prendre une teinte paille ou miel selon la luminosité. Construit à la fin des années 20, dans le style dit moderniste danois, c'est un bijou d'équilibre et de sobriété, amené autour d'un accident de terrain, d'une dépression naturelle dont on ne savait pas quoi faire. trop grande pour être comblée, pas suffisamment pour ne pas pouvoir être domestiquée, intégrée dans un vaste ensemble paysager dont elle devient, dans un retournement des contraintes topographiques, le principe ordonnateur, dès lors que tout s'articule et s'organise autour d'elle. La disposition des bâtiments, la plantation des arbres, le tracé des allées et au-delà, par la présence à cet endroit stratégique de pelouses de repos et de lieux de rassemblement tels que la bibliothèque ou l'auditorium, les allées et venues des étudiants. Depuis qu'elle existe, l'université a fait l'objet de rénovations et d'agrandissements, mais toujours dans le respect des parties prises esthétiques léguées à leurs successeurs par l'architecte et le paysagiste. Les constructions aux lignes simples sont limitées à 4 étages. La continuité dans l'usage des matériaux a été préservée. Murs et murets en briques, huisseries blanches, tuiles brunes et le jardin à l'anglaise, planté de chênes aujourd'hui presque centenaires, a conservé ses vastes pelouses et le tracé sinueux des allées. De sorte que l'impression de cohérence et d'unité, d'un équilibre presque zen, et la paix intérieure que cela procure, ce qui fait défaut partout ailleurs dans la ville, on le trouve ici. La circulation s'est fluidifiée dès qu'il a quitté le centre-ville. Il progresse sous pilote automatique, sans se poser de questions, l'itinéraire est simple. À la hauteur du jardin botanique, la Westerallee change de nom une première fois, puis une deuxième fois au profit de la rue Langeland, ce qui concrètement n'a pas d'incidence. La trajectoire de départ dans laquelle s'inscrit la Volvo reste la bonne et le conduit droit à son objectif, le pôle chimie, physique et géophysique de la faculté des sciences. Je vous ai lu un extrait de Doggerland, le dernier roman de Elisabeth Philol, paru chez POL en 2019.
Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.